When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Louis.
Nova.
C'est ça en fait l'enjeu. C'est une parole responsable mais qui n'est pas une parole apeurée, qui n'est pas une parole coupable et qui est une parole qui peut exister dans une forme de droit à l'erreur qui aujourd'hui est très difficile à faire valoir dans les espaces politiques.
Juliette Rousseau est militante féministe et écologiste, autrice et traductrice d'un essai formidable paru en janvier dernier, « La joie militante ». Dedans, l'activiste Carla Bergman et le chercheur Nick Montgomery interrogent la manière dont on peut mener des luttes politiques sans se laisser contaminer par la violence du monde que l'on veut changer, sans reproduire, dans les cercles militants, les logiques de domination à l'œuvre ailleurs. Comment on peut échapper à ce qu'ils appellent le radicalisme rigide pour demeurer dans un élan fécond? Si vous côtoyez ou participez à des luttes politiques, vous avez forcément assisté à des échanges virulents où certaines personnes expliquent à d'autres qu'elles n'emploient pas le bon mot, ne font pas comme il faut, desservent la cause. C'est à ce manichéisme que réfléchit la joie militante, à ses symptômes et à ses effets. Et cet essai, exaltant, propose de la nuance, du lien, du mouvement et par là même, produit du désir politique. J'ai demandé à Juliette Rousseau comment notre parole et notre discours étaient impactés par ces enjeux. Je suis Charlotte Pudlowski. Bienvenue dans Fracas.
Le point de départ du livre, c'est une grosse inspiration dans le travail de Spinoza et notamment sa définition en tant que philosophe de la joie. La joie comme étant l'affect qui permet la transformation. Et donc c'est vraiment cette idée que, contrairement à ce qu'on pourrait en penser ou en comprendre au premier abord, la joie, c'est pas tant un état de bonheur, c'est pas tant un espace affectif, confortable, etc. La joie, c'est ce qui nous permet de nous mouvoir avec le monde en même temps qu'on cherche à le faire mouvoir. Et donc c'est une notion extrêmement intéressante du point de vue des luttes, parce que elle parle exactement à cet endroit de transformation sociale qu'on cherche en général à impulser dans les luttes. Et donc, la joie militante, c'est exactement ça, si je devais essayer de la définir en une phrase, c'est cette capacité à habiter les situations de transformation, en même temps qu'on cherche à les transformer, à les faire évoluer, d'accepter qu'elles nous transforment et qu'elles nous fassent évoluer.
Moi, j'ai pensé, en lisant au mot d'élan, que c'était un bon synonyme par rapport à la joie militante, c'est-à-dire l'élan qui, à la fois, fait le lien avec l'autre, qui n'est pas synonyme de bonheur, mais qui est processus.
Complètement, effectivement, on pourrait parler d'élan, et je pense qu'on pourrait parler aussi de... En fait, la joie militante, elle est là où on la ressent très fortement, c'est souvent quand on a des mouvements qui font irruption, c'est exactement ce qui qualifie le début de ces mouvements. C'est-à-dire que c'est une dynamique collective qui saisit tout le monde et qui emporte tout le monde au passage. Et vraiment, dans cette dynamique collective, on est individuellement complètement transformé, et en même temps, il se passe collectivement quelque chose qui fait bouger aussi, qui nous fait bouger socialement. Et dans leur travail, en filigrane, se pose la question de savoir comment entretenir cet élan.
Et alors, à l'opposé de ça, il y a l'idée de radicalisme rigide.
Il y a plusieurs façons de le définir, mais c'est cette idée que qu'est-ce qu'on fait des choses, qu'est-ce qu'on fait des dynamiques qui apparaissent. La posture radicale rigide, ça va être de chercher à les analyser à partir d'une théorie, et de dire qu'est-ce qu'ils vont devenir. Bon, d'une part, d'en faire l'analyse sur la base de leurs défauts, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, et en général, on va très vite voir tout ce qui ne va pas, et donc, là où ça ne peut pas aller. Je pense que si on doit parler concrètement, on peut dire, par exemple, ce qui s'est passé en France au moment du début du mouvement des Gilets jaunes correspond tout à fait à ça, c'est-à-dire une grande partie du monde militant français sur les premières manifestations de Gilets jaunes, c'est tenu très à distance. Alors, on a eu plusieurs types de réactions. On a eu des réactions immédiatement critiques, immédiatement dans la condamnation. Et puis, on a eu toute une partie plus majoritaire, je dirais, de se tenir à distance parce qu'on ne sait pas dans quelle case ranger ce qui est en train de se passer. Et donc, on va attendre de savoir comment est-ce qu'on peut exactement analyser ce qui est en train de se passer pour pouvoir y prendre part, décider en tout cas si on y prend part ou pas.
Et si on voulait archi-simplifier, est-ce que ce serait possible de dire le radicalisme rigide, il se loge un peu dans les endroits où on dit c'est pas ça qu'il faut dire, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas la bonne manière de militer, il y a une bonne et une mauvaise manière.
Oui, complètement, complètement. La façon de on pourrait dire aussi voilà les bons mots qu'il faut employer et tous les bons mots qu'il ne faut pas employer, des mots qui étaient à un moment donné bons tout d'un coup ne le sont plus et donc il est important de savoir qu'ils ne le sont plus et donc si on emploie les mauvais mots tout de suite on n'est plus du bon côté. Oui, bien sûr, c'est ça, je pense qu'on peut tout à fait le définir comme ça.
Dans la préface, vous dites que votre rencontre avec la lutte politique a été pleine de joie, puis que la joie s'est tarie. C'est quoi votre parcours de militante politique au départ ?
Moi, j'ai rencontré la lutte avec le mouvement contre le CPE, donc en 2006. Et ça a été clairement un très bon exemple de moment effectivement très joyeux dans le sens dans lequel l'utilisent les auteurs de Joie militante. Après, je pense qu'il y a quelque chose de constitutif en tout cas dans cette joie-là, dans ce moment où on est transporté dans cette dynamique collective et en même temps à l'échelle individuelle, on vit cette apparition soudaine d'une multitude de possibles, l'idée que la vie telle qu'on l'imaginait est en fait elle est beaucoup plus riche, elle est beaucoup plus ouverte que ce qu'on pensait. Après ça, après ce premier mouvement étudiant, moi je me suis engagée dans des associations altermondialistes. Et notamment beaucoup dans des dynamiques de forums sociaux mondiaux, contre sommets. Donc j'ai travaillé sur tout un ensemble de thématiques différentes. Je me suis aussi engagée dans des luttes féministes. J'ai croisé différentes formes de radicalité aussi, on peut dire, parce que c'est selon l'héritage théorique dans lequel on s'inscrit, on ne défend pas la même radicalité. Et c'est vrai que cette joie-là, finalement, pour être tout à fait sincère, je ne l'ai retrouvée que très récemment dans les espaces féministes.
À quelles occasions, sous quelle forme ?
Je dirais que clairement, ça a été en gros, il y a 2 ans, je suis très mauvaise en date, mais c'était en 2019. 2019, on a commencé à préparer la manifestation du 24 novembre contre les violences sexistes et sexuelles. Donc c'était à Rennes, dans la ville dans laquelle je vis. Et en fait, on a été, disons que la dynamique a été réimpulsée avec un petit groupe de militantes féministes comme moi qui militaient depuis plusieurs années, venues d'ailleurs de différentes, on va dire, de différents fronts politiques. Et très rapidement, en fait, on a été débordés dans les réunions, mais j'emploie le terme débordé dans un sens très positif. On a été débordés de très jeunes personnes militantes, y compris de personnes qui sortaient du lycée, y compris de personnes qui étaient au lycée. Donc qui arrivaient dans cet espace militant avec un engouement, avec un regard vraiment nouveau aussi, frais, qui n'était pas chargé de la fatigue, de l'amertume, des rigidités que nous, on pouvait avoir accumulées avec le temps. Et donc ça, je pense que pour nous qui venions avec ce passif, avec en même temps cette expérience aussi qui est aussi importante, ça nous a obligés à un espèce de déplacement dans nos façons de nous adresser les unes aux autres, dans nos façons de poser aussi les enjeux, les discussions politiques. On pouvait plus du tout les poser de la même façon. Et en même temps, de sortir de ce confort-là, ça nous emmenait dans un espace d'inconfort qui était extrêmement joyeux, c'est-à-dire un espace de partage. Le plaisir à être là ensemble nous donnait une forme de puissance collective. Donc je pense que à cet endroit-là, moi, ça m'a fait vraiment me poser la question sur qu'est-ce qui fait que tout d'un coup c'est joyeux. Et je pense que la joie, elle tient à la rencontre entre différentes expériences, elle tient à la rencontre entre différentes générations, et elle tient à l'impression que d'être là recouvre un sens largement supérieur à plein d'autres choses qu'on pourrait être en train de faire au même moment, quoi.
Et dans la préface, vous racontez qu'en certains endroits de lutte, il y a parfois l'expression d'un malaise, voire d'un dégoût devant l'emploi de certains mots, qui aurait une peur constante dans certains milieux de dire quelque chose de travers. C'est très fort, cette idée de dégoût ou de malaise devant l'emploi de certains mots.
Tout à fait, y compris ça mène à des phénomènes d'exclusion qui peuvent être extrêmement violents. qui sont pas toujours compris, voire même en fait assez souvent peu compris par les personnes qui en font les frais. C'est-à-dire très souvent, on n'a pas forcément réfléchi aux tenants et aux aboutissants, on n'a pas forcément été averti, on ne nous a pas forcément parlé des débats en cours autour de ces termes, etc. Et puis bon, par ailleurs, il faut quand même dire que quand on est dans des espaces qui ont la vocation de s'élargir, d'accueillir plus de personnes, il faut s'attendre à ce que la sémantique soit en perpétuel questionnement, qu'on soit perpétuellement là aussi en dehors de nos zones de confort. Parce que il est bien évident que une sémantique parfaite n'existe pas et que par ailleurs, c'est extrêmement élitiste de s'attendre à ce qu'on puisse ouvrir des espaces, accueillir plus de personnes et en même temps d'attendre de ces personnes-là qu'elles aient déjà tout compris en arrivant. Ça, c'est bien évidemment impossible. Il y a une dose de moralisme extrêmement forte derrière ça, qui renvoie peut-être à une... Parmi les pistes que Carla et Nick explorent dans le livre et qui me paraissent intéressantes, il y a notamment cette idée que c'est tellement dur... Ce contre quoi on lutte, c'est tellement dur, ce qui nous est fait. La dérive politique qu'on est en train de vivre est extrêmement difficile. Tout ça fait qu'il y a peu de choses sur lesquelles on a du contrôle. Et donc, ce sur quoi on va avoir du contrôle, on va exercer une sorte de sur-contrôle. Et la sémantique, ça fait partie de ça. Ce qu'on peut dire du monde, ça fait partie de ça. Ça, c'est un premier élément d'analyse. Après, il y a la question de la théorie, la question de l'idéologie, et comment l'idéologie a pu, dans nos héritages politiques, prendre une place surplombante sur nos pratiques. C'est-à-dire que ce qu'on dit du monde en vient à devenir plus important que ce qu'on fait dans le monde.
Et alors, pour donner des exemples concrets, en tout cas, moi, parmi les exemples que je connais, on peut dire le fait d'employer le mot cisgenre ou de parler du blanc-triarcat pour parler du patriarcat et du système de domination par la blanchité, de parler de personnes racisées pour parler des personnes non blanches. Tout ce vocabulaire qui est en évolution constante, puisque, par exemple, le mot cisgenre est pas encore connu du grand public, mais il n'était même pas dans les cercles militants relativement avancés il y a 10 ans.
La difficulté, moi, je crois, c'est que, en fait, on doit tout le temps gérer dans ces espaces-là entre, je pense, des personnes qui ont un certain niveau de fatigue, parce qu'elles sont systématiquement confrontées à ces mots qui renvoient aux oppressions qu'elles vivent, peuvent arriver avec un certain niveau de fatigue et non envie de gérer ces choses-là, ce qui est tout à fait légitime. Et en même temps, je pense, une espèce de désir très fort chez un certain nombre de personnes de bien faire et qui peut se muer en cette espèce de moralisme qui consiste à dire... Il est très important de pouvoir systématiquement se démarquer des personnes qui ne font pas bien pour être cette personne qui fait bien. Et donc, pour pouvoir se démarquer, le mieux, c'est quand même de relever systématiquement qu'une personne fait mal, ce qui vient dire en filigrane « moi, je fais bien, moi, je sais, moi, je vois, moi, j'ai compris ». Et ça, c'est un vrai problème, parce que les personnes ne devraient jamais être réduites aux mots qu'elles emploient. Je vais essayer d'élaborer. Dans le livre, Nick et Carla font une différence entre une approche morale et une approche éthique. Ce qui est intéressant parce que souvent, dans le langage commun, on a tendance à employer les deux sans les distinguer. Là où il et elle font une différence, c'est qu'une approche morale, elle va juger d'une façon surplombante ce qui est bien et ce qui est mal. C'est-à-dire, à l'avance, on sait ce qui est bien et ce qui est mal. Alors qu'une approche éthique, telle qu'elle est défendue par Spinoza notamment, mais pas que, encore une fois, elle va habiter un contexte. C'est-à-dire, on peut pas dire par avance ce qui est bien et ce qui est mal. On va essayer de distinguer ce qui peut faire évoluer dans un contexte d'une façon positive ou d'une façon négative, ce qui peut construire et ce qui peut défaire. Et là où je pense que c'est important, c'est que, pour revenir à la question des mots qu'on emploie, moi, je pense qu'on devrait jamais juger une personne sur les mots qu'elle emploie. Par exemple, on cherche à construire un mouvement de masse, on cherche à organiser une grosse manifestation féministe et des personnes qu'on ne connaît pas viennent et emploient des mots qui sont erronés. Je pense que on peut pas juger ces personnes-là sur le fait qu'elles emploient ces mots. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est réfléchir à comment est-ce qu'on réagit à ça. Je sais pas, encore une fois, on reprend l'exemple du clitoris et je pense que c'est un bon exemple. On a des personnes qui viennent et qui sont hyper contentes de venir faire cette manifestation pour qui c'est un moment de gain de puissance énorme et qui disent on a envie de mettre des clitoris partout sur la ville, de coller des clitoris partout, d'avoir des affiches de clitoris, etc. Face à ça, on peut s'insurger, dire que c'est transphobe.
Parce que l'idée, c'est que du coup, quand on est une femme trans, on n'a pas forcément de clitoris, et du coup, on est quand même une femme. Donc l'idée, c'est que résumer le fait d'être une femme à avoir un clitoris, ça exclut un certain nombre de personnes.
Exactement. Et donc, on peut avoir une première réaction qui va être une réaction de condamnation, de dire voilà, ça c'est transphobe, etc. Et voilà, cette réaction, elle peut en partie énoncer une vérité. Enfin, effectivement, c'est dans une d'une certaine manière c'est transphobe. Et en même temps, si ça n'a pas été pensé par les, ce qui est souvent le cas en fait, si ça n'a pas été pensé par les personnes qui le défendent, ça risque de ne pas être compris. Et une autre possibilité, c'est de c'est de prendre les choses calmement. Et là où moi je pense que c'est important, et ça renvoie à mon précédent travail, c'est que si on a un groupe suffisamment construit, en tout cas pas l'ensemble du groupe, mais si à l'intérieur du groupe il y a des personnes qui ont commencé à réfléchir à ces choses-là, qui ont construit des relations de confiance, etc., c'est pas nécessairement aux personnes concernées par ça, qui peuvent avoir vraiment aucune envie de gérer ça, de le dire, mais ça peut être des personnes qui ne sont pas concernées, une personne comme moi par exemple qui suis cis, mais qui sait que là, cette remarque, elle blesse et elle est problématique, d'expliquer tranquillement, en fait, oui, on peut utiliser le clitoris, mais ça serait bien de pas le mettre partout, parce que là, on en viendrait à donner une définition de ce qui fait les femmes qui n'est pas juste et qui n'est pas représentative. On peut ouvrir des portes à des discussions, etc.
Et ce qui est compliqué aussi, juste pour reprendre sur ce que vous dites, sur l'idée de qu'il y ait des gens qui pourraient expliquer, c'est qu'en gros, il y a un certain nombre de personnes dans les milieux militants qui disent « si vous venez militer, on va pas perdre notre temps ». Enfin, si vous venez militer, et a fortiori d'ailleurs, si vous militez pas, nous qui subissons des oppressions, ou nous qui sommes des alliés des personnes qui subissent des oppressions, on va pas passer notre temps à aller éduquer les gens. Si vous voulez être une bonne personne, éduquez-vous vous-même. Donc c'est comment trouver le terrain peut-être de ou l'endroit de nuance où on accepte des nouvelles personnes, on accepte que le vocabulaire, la sémantique et la pensée sont en permanente évolution, mais que quand même il y a un minimum d'effort à faire quand on a envie d'être inclusif et de pas être violent et de pas rajouter de la violence aux oppressions déjà subies par une certaine population.
Il y a une des notions aussi qui est poussée dans le livre et qui me paraît vraiment importante, c'est la notion de confiance. Et de confiance a priori. C'est-à-dire, plutôt que ce qui est assez. Plutôt que ce qui fait la norme, en fait, en société, qui est de dire la confiance se gagne, là, à l'inverse, de dire non, la confiance, on va la donner a priori, parce que c'est ça qui est en soi révolutionnaire, c'est de dire je ne te connais pas, mais je choisis de te faire confiance. Et je pense que, typiquement, sur la question de s'éduquer, parce qu'il y a déjà des textes, parce qu'effectivement, sur beaucoup de questions, il y a déjà plein de ressources en ligne, etc., ça peut être aussi plutôt que d'être dans une binarité entre dire je fais comme si la personne n'avait rien dit pour ne pas la blesser, ou alors je lui rentre dedans et je lui dis ça va vraiment pas ce que t'as dit, peut-être qu'il y a aussi une possibilité entre les deux qui consiste à dire je crois qu'il y a il y a un problème avec ce que t'as dit, on va peut-être pas en discuter maintenant parce qu'on a d'autres choses à faire, je peux te donner des ressources et je te fais confiance pour avancer avec ces ressources. Et du coup, il y a vraiment cette chose-là aussi de la façon dont on construit les relations, c'est une alimentation mutuelle. On peut les nourrir mutuellement. Si on pose des choses qui donnent envie en retour de les nourrir, finalement, ça peut aller beaucoup plus loin que si on est tout de suite dans quelque chose qui serait de l'ordre du jugement, du contrôle ou du rejet.
En fait, c'est l'idée globalement d'essayer d'échapper à une forme de violence qui est déjà celle du monde qu'on essaye de déconstruire quand on est militant ou quand on est dans la lutte politique.
Je pense que oui, effectivement, c'est l'idée de construire, je crois que c'est vraiment l'idée de construire d'autres relations. Et ça ne veut pas dire qu'on va complètement échapper à la violence, puisqu'on est construite dans cette violence, donc d'une manière ou d'une autre, on va la reproduire à certains moments, on va y être à nouveau confronté, mais c'est quelle relation on peut construire qui échappe aux constructions, j'ai presque envie de dire aux constructions qui nous sont faites. Moi, mon identité de blanche, mon identité de cis, évidemment, elles vont continuer à jouer dans ce que je fais. Mais c'est comment est-ce que, dans les relations que je construis, quelque part, je m'engage suffisamment pour amener avec ça la nécessité de cette transformation. Iléal utilise un exemple que je trouve très beau et qui, moi, me parle beaucoup aujourd'hui dans ma vie. C'est pour illustrer la façon dont, justement, les relations et les attachements sont vecteurs de transformation. C'est-à-dire, plus on s'attache, plus on va avoir envie de transformer ce monde. Il et elle parle notamment de l'attachement à un territoire. Si on s'attache à un territoire abîmé, si on s'ouvre à prendre conscience des mouvements migratoires des oiseaux, du passage des saisons et de comment ils se manifestent, en fait, on s'ouvre aussi à la blessure que va générer le constat de la disparition des oiseaux, du fait que les saisons se bouleversent, qu'elles ne fonctionnent plus de la même manière. On s'ouvre à de la blessure, on s'ouvre à de la tristesse, on s'ouvre à du deuil. Donc encore une fois, ça renvoie à cette idée que la joie, ça n'est pas que quelque chose de confortable. Mais c'est cet attachement qui va construire en nous la nécessité de défendre ce à quoi on tient.
Ce qui est très frappant, je trouve, dans le livre, c'est aussi, donc vous parlez dans la préface de l'état continu de peur, d'anxiété et de colère, c'est quand même très très fort, et beaucoup plus tard dans le livre, dans un des derniers chapitres, celui qui est vraiment consacré au radicalisme rigide, les auteurs disent qu'ils ont un peu peur d'écrire dessus. Il y a effectivement ce sentiment que certaines personnes ont peur de s'exprimer sur certains sujets. Comment est-ce que vous analysez cette peur extrêmement forte de parler? Est-ce que vous pensez qu'elle est de plus en plus forte ou c'est un effet d'optique qu'on peut avoir dans certains cercles?
Une autre notion qui est poussée dans le livre et que j'aimerais bien partager ici parce que je la trouve vraiment importante et qu'elle est presque jamais encore aujourd'hui, même si je pense que ça va évoluer, mais elle est presque jamais utilisée ou on n'y fait pas référence en fait dans la culture française aujourd'hui, c'est la notion de responsabilité. Je pense qu'un des gros problèmes des réseaux sociaux, c'est que les relations sur les réseaux sociaux, mais c'est pas seulement les réseaux sociaux. Je pense que ça renvoie aussi, par exemple, à un mode de vie urbain. On peut avoir des relations qui sont détachées de leurs responsabilités. On peut, en fait, avoir des relations avec des gens et puis les rompre brutalement et puis commencer des nouvelles relations avec des nouvelles personnes et puis les rompre à nouveau et en commencer encore. Et on peut faire ça à l'infini et sur les réseaux sociaux et puis souvent aussi quand on habite dans les grandes villes, c'est un truc qui est très commun dans les milieux militants. Je pense que c'est vraiment un problème. Moi, je suis très attachée à la notion de communauté. C'est quelque chose que je cherche activement à construire dans ma vie, c'est-à-dire tirer ce fil de la communauté au sens large comme un ensemble de liens que je noue et qui habitent mon quotidien. Pour essayer de le dire concrètement, admettons, par exemple, on peut parler de territoire. Si je lutte à partir d'un territoire, quelle que soit la question que je pousse au sein de ce territoire, je lutte à partir d'une communauté humaine donnée qui ne va pas changer. Ça veut dire que si cette communauté humaine, c'est celle que je croise, pas nécessairement quotidiennement, mais en tout cas régulièrement, avec laquelle je partage ce territoire que j'habite, ma responsabilité à l'intérieur de ce tissu relationnel, elle est supérieure. Je peux pas me permettre de juste, en gros, pour le dire un peu basiquement, de juste dire aux gens que c'est des abrutis finis, et puis leur claquer la porte au nez, et puis passer à autre chose, parce que je vais continuer d'habiter au même endroit qu'eux. Je vais continuer de partager ce même territoire. Et donc là, il y a une dimension de responsabilité qui fait qu'à un moment donné, si je veux que les choses bougent, il faut que j'emmène les autres avec moi. Mais je crois qu'on a vraiment la nécessité de se poser cette question de responsabilité, c'est quelle responsabilité on a, soit, dans ce concret, en termes relationnels, collectivement, dans les endroits qu'on investit. Et ça peut être aussi dans les endroits virtuels qu'on investit. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait que ça soit pas posé, c'est un vrai problème. Parce que oui, il y a un enjeu à penser une éthique de nos relations, encore une fois, une éthique de nos relations, y compris dans les espaces virtuels qu'on considère être des espaces politiques. Parce que c'est toujours sur des enjeux politiques que ça se joue, en fait.
Qu'est-ce que ça génère, cette peur de parler pour un certain nombre de personnes dans les milieux militants?
Oui, je vois plusieurs choses. Je pense qu'il y a, si j'essaie de faire le tri entre les choses, entre ce qui me semble négatif et ce qui me semble positif. Ce qui me semble positif, c'est notamment l'idée que la parole a du poids et que la parole n'est pas neutre. Et que le rapport à la parole, lui non plus, n'est pas neutre. Selon notre position sociale, on n'a pas le même rapport à la parole. Et on n'a pas la même écoute non plus, on n'a pas la même audience. Donc je pense que cette prise de conscience-là, elle est hyper importante. Que, en fait, pour le dire très basiquement, plus on est protégé par l'ordre social, plus on a la parole facile, plus on a la parole violente et plus on a la parole visible. Donc c'est vraiment important qu'il y ait cette prise de conscience-là qui se fasse. Ça, c'est ce que je vois de positif. Au-delà de ça, je pense que ce que ça génère, cette peur de parler, ça génère beaucoup de défection déjà. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en fait ne se sentent pas les épaules ou ne se sentent pas la capacité de rester à batailler dans ces espaces, de prendre des risques, de s'exposer potentiellement au retour de bâton si elles venaient à avoir la mauvaise parole. Et je pense que ça vient aussi donner beaucoup de pouvoir, mais pas un bon pouvoir pour le coup, ça vient beaucoup donner beaucoup de pouvoir sûr à des personnes qui justement n'ont pas peur, n'hésitent pas, sont plus à l'aise, et que ça c'est un problème. Ça c'est vraiment un problème, parce que du coup on se retrouve à alimenter des dynamiques de pouvoir qui sont pas du tout celles qu'on prétend défendre.
Est-ce que vous pensez que c'est possible d'échapper complètement à ce radicalisme rigide, à ces peurs de parler dans les milieux militants et de faire que le discours militant soit entièrement joyeux, au sens où il est défendu dans le livre, c'est-à-dire sur un terrain de nuances, d'élan.
Je ne crois pas que ça soit complètement possible. Alors, je vais vous dire une chose qui est mon opinion à moi. Ça, c'est important parce que ce n'est pas écrit dans le livre. C'est ma vision à moi de ça, en tant que féministe et en tant que féministe française. Je pense qu'on a un enjeu très fort à penser la question des relations de manière générale, dans les milieux, avec une perspective politique, et qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Les relations, comme on les construit, ne sont pas pensées. Et c'est un vrai problème. Je ne crois pas que ça soit possible d'arriver à un discours militant qui soit uniquement joyeux. Je ne pense pas qu'on peut tout à fait se débarrasser du radicalisme. Maintenant, et c'est pour ça que je parlais de féminisme, maintenant, là où je pense qu'il y a vraiment un enjeu, il y a quelque chose qui peut largement, en tout cas une marge d'évolution qui me paraît très large, c'est la possibilité de penser la façon dont on peut nourrir la joie, dont on peut nourrir dont on peut nourrir un discours joyeux, dont on peut nourrir une parole qui serait libérée de la peur et qui serait en même temps une parole responsable. Ça ne pourra arriver que dans la mesure où on reste alerte à nourrir, à venir nourrir cette culture joyeuse. Et notamment qui passe par le droit à l'erreur, par une forme d'humilité partagée, par une reconnaissance de l'évolution permanente des choses. Et aussi, je pense que l'humilité, et j'ai vraiment envie de le dire, ça c'est important, je pense que l'humilité, elle passe aussi par la reconnaissance du fait qu'on part de très loin. Nos capacités relationnelles ont été largement détruites dans la société dans laquelle on vit. On ne sait pas faire collectif. Je crois que c'est une vraie réalité. On ne sait pas faire communauté. On sait très mal gérer le conflit. On sait très mal construire des relations qui durent et construire des relations qui durent en dehors de ce qui a été prévu pour nous.
En lisant le livre, j'ai eu le sentiment qu'il y avait presque deux types de paroles dont l'un appartiendrait au radicalisme rigide, qui serait l'invective ou le monologue ou la diatribe, et l'autre qui serait presque à la fois la condition et le symbole du militantisme joyeux ou de la joie militante, qui serait la conversation, qui est par essence même et collective, et élan, et construction et processus. Est-ce qu'on peut dire ça, que la conversation, c'est la condition du militantisme joyeux ?
Moi, je dirais oui, et j'ajouterais à ça le questionnement. C'est une posture anti-autoritaire, en fait, ou en tout cas, c'est une posture qui va à l'encontre de la domination, celle de la conversation et celle du questionnement. C'est-à-dire, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas ni de pensée ni d'analyse du monde qui se développe tout seul. Aucune pensée n'est individuelle. Tout est le fruit, en fait, de mouvements collectifs, de conversations larges ou plus ou moins larges, en fait, d'ailleurs. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, le questionnement, c'est de dire, en fait, ça, c'est quelque chose qu'il et elle défendent dans le livre et que je trouve vraiment intéressant, c'est de dire la forme question est beaucoup plus fertile que la forme affirmation. Et en fait, ce sont les questions qui nous font avancer. Et ce qui est intéressant, c'est de poser des questions sans chercher nécessairement à les résoudre, mais de poser des questions comme ce qui nous met en mouvement. À partir du moment où on cherche à paver notre chemin militant de certitude, je pense que là, on rentre dans une forme de radicalisme et de rigidité.
Est-ce que vous pensez que cette question de la joie militante, ça dépasse les militants, pur et dur, et que ça peut susciter une réflexion plus globale, que c'est quelque chose qui touche un peu tout le monde ?
Il et elle le disent dès le début, hein. Cette théorie, ou en tout cas cette proposition qu'il et elle développe, elle s'ancre dans une volonté radicale de changer le monde, d'aller à la racine de ce qui fait violence dans le monde et de l'arracher, cette racine. À l'inverse, je pense qu'effectivement, ça serait dommage de cantonner cette approche-là à uniquement une approche militante radicale, seulement aux espaces militants radicaux, parce qu'effectivement, elle, à mon sens, elle, y compris, je pense qu'elle peut faire écho, en fait, à d'autres formes d'élaboration de rapports au monde qui peuvent exister dans des espaces qui ne sont pas des espaces militants, mais qui sont peut-être des espaces spirituels, qui sont peut-être des espaces thérapeutiques, et que, y compris, on aurait vocation à mettre en lien. La réflexion qui est développée, c'est une réflexion qui est en constante conversation avec d'autres paroles, y compris avec des paroles qui sont en désaccord, et qui n'a pas nécessairement une volonté de résoudre ces désaccords, mais plutôt de leur laisser la voie libre. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, c'est ces paroles-là qui viennent moduler, qui viennent donner une forme à cette réflexion que le livre tente d'élaborer. Et du coup, de ce point de vue-là, ça me paraît vraiment intéressant, parce qu'on n'est pas dans une seule parole, d'une personne, d'un jeu qui pense le monde, on est vraiment dans une conversation continue.
Juliette Rousseau est l'autrice de « Lutter ensemble » aux éditions Cambourakis et traductrice de « La joie militante », formidable essai de Carla Bergman et Nick Montgomery, qu'elle a aussi préfacé et qui est publié aux éditions du Commun. Je vous invite à le lire et à l'offrir, c'est une source de réflexion et de plaisir immense. Cet épisode de Fracas a été monté par Julia Courtois, réalisé et mixé par Malo Williams. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fracas est un podcast produit par Louis Média et Radio Nova. Et si ce podcast vous plaît, je vous invite à aller commenter sur Apple Podcasts, à en parler autour de vous et à découvrir nos autres podcasts, notamment Passage, notre podcast d'histoire vraie, ou encore Travail en cours, notre podcast consacré au bouleversement du monde du travail. Et si vous voulez soutenir Louis et nos projets, vous pouvez toujours vous abonner au club louismedia.com/club. À très vite.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Brought to you by Lexus. Some things do more than their stated functions, because exceptional things inspire you to do exceptional things. To this select list, we add the all-new Lexus GX. With its exceptional capability, you'll see possibilities you never knew existed, sending you far outside your comfort zone. But as much as the GX challenges you, it also spoils you. Its intuitive technology and luxurious features mean that wherever you go, you'll never go without. Live up to it. The all-new Lexus GX.